Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
C'est en Libye que nous amènera l'escale reportage dans un instant à Tripoli. Que se passe-t-il à l'intérieur pendant que les forces fidèles au maréchal Haftar tentent de prendre le contrôle de la ville? Tripoli, entre poussée extérieure donc et milices locales au milieu, notamment il y a les réfugiés coincés. On verra ça avec Omar Waman sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, le cinéma en VO et Eva Bétan qui est à Cannes pour nous présenter un film brésilien ce soir. Et puis Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Vous verrez que dans certains pays, il n'y a pas d'extrême droite avant ces élections européennes. On va chercher où et surtout d'ailleurs pourquoi. Avant cela, direction les États-Unis, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Le Sénat de l'Alabama a donc voté cette nuit une loi interdisant l'avortement même en cas de viol ou d'inceste, n'autorisant l'interruption volontaire de grossesse qu'en cas d'extrême danger pour la mère. La semaine dernière, la Géorgie, un peu avant le Kentucky, et puis le Texas, et puis la Louisiane. C'est vrai que c'est pas une surprise de voir combien Roe versus Wade, donc la jurisprudence qui autorise l'avortement, c'est pas une surprise de voir combien cette jurisprudence est attaquée parce qu'elle l'a toujours été, mais il y a une poussée en ce moment des anti-avortement qui sentent pousser des ailes. On verra grâce à quoi. Trump probablement, une Cour suprême aussi qui théoriquement est plus favorable. Bonsoir Camille Froidevaux-Maitry.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sciences politiques à l'université de Reims-Champagne. Vous avez notamment écrit Le corps des femmes chez Philosophie Magazine Éditeur, c'était l'année dernière. Vous avez aussi écrit d'ailleurs autour de la politique et la religion aux États-Unis. Forcément, ça nous intéresse. On va venir au basculement politique et idéologique en fait qui accompagne ce genre de décision. Moi, je voudrais qu'on redise ce que c'est Roe versus Wade, surtout sur quoi on s'accroche dans la Constitution, parce que c'est ça peut-être qui rend cette jurisprudence au fond fragile.
Roe versus Wade, c'est un arrêt de la Cour suprême qui a été pris en 1973 et qui a rendu l'avortement légal au niveau fédéral, alors même que jusque-là, la plupart des États fédérés le considéraient comme illégal. Et cet arrêt, il est décisif parce qu'il va permettre, sur la base du droit à la vie privée des femmes...
C'est ça qui est intéressant, la manière dont il l'aborde en fait.
Absolument. C'est-à-dire que beaucoup de questions ont été soulevées à ce moment-là, notamment par exemple la question de savoir quand commence la vie, ce à quoi les juges ont répondu que la question qui importait, la seule question qui importait, c'était celle de savoir qui des femmes ou du gouvernement devait prendre la décision quand il s'agissait d'interrompre une grossesse. Et la réponse est les femmes. Et le gouvernement doit laisser à celles-ci la liberté de disposer de leur corps procréatif.
Et la raison pour laquelle je vous ai posé la question dans ce sens-là, c'est qu'on a l'impression que les choses se sont inversées désormais. Ce sont les États, désormais, semble-t-il, qui ont pris la main. Comment les États arrivent-ils à prendre la main et à être finalement décisionnaires sur les temps d'avortement, sur le moment, sur le quand et sur le qui quasiment?
Alors dès l'origine, dès 73, les États fédérés pouvaient intervenir, notamment pour ce qui concerne les deuxième et troisième trimestres d'avortement, pour imposer des restrictions. Et puis au fur et à mesure des décennies, les attaques de plus en plus intenses de la droite chrétienne notamment et des lobbies pro-life ont fait passer des législations qui leur permettent définir, de circonscrire les conditions dans lesquelles les avortements se pratiquent aux États-Unis. Et donc on a assisté à une croissance exponentielle de lois votées qui précisément visent toutes à rendre l'avortement de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile pour les femmes.
Mais ça veut dire que le droit des États, au fond, l'emporte sur une définition même, au fond, y compris de viabilité d'un fœtus.
Alors dans des circonstances et dans un cadre qui est défini par l'arrêt de Roe versus Wade, mais en effet pour ce qui concerne un certain nombre de détails qui sont souvent très techniques, très pratiques, comme par exemple l'histoire de la largeur des couloirs des cliniques ou la longueur des brancards ou d'autres un peu plus embêtants comme l'autorisation des parents pour les mineurs, mais tout cet arsenal législatif permet non pas de revenir sur le droit à l'avortement, mais simplement d'en rendre les conditions d'application plus difficiles. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va peut-être passer à l'étape suivante. L'inquiétude est assez vive de ce point de vue-là, puisque ce qu'espèrent les pro-life en faisant passer ces lois, c'est notamment que l'une d'entre elles parvienne jusqu'à la Cour suprême.
Et c'est ça effectivement le but du jeu, on va y revenir. Je voudrais vous emmener d'abord en Alabama hier. Regardez ce que ça donnait quand ce vote a eu lieu.
Mr. Allen, Mr. Barfoot, Mr. Beasley, Mr. Burkett, Mr. Butler, Mr. Chambliss, Mr. Chastain, Ms. Coleman-Madison, Ms. Dunn, Mr. Elliott, Ms. Figures.
Voilà, on pourrait le faire passer jusqu'au bout, mais ce qu'on entend, ce sont 31 hommes, en fait, 31 hommes et 3 femmes. Donc on est dans une sorte de caricature de qui s'occupe du corps des femmes dans ce pays en ce moment, en tout cas dans cet état-là. Cela dit, c'est une femme de gouverneur, c'est une femme gouverneur qui va signer cette loi-là en Alabama. Et est-ce que réellement, Camille Froide-Vaumétry, là-dessus, aux États-Unis, il y a un clivage homme-femme, ou est-ce que le clivage n'est pas tout à fait autre chose, en fait? On a cette image caricaturale, mais finalement, le clivage est tellement idéologique, est-ce qu'on peut vraiment le ramener, au fond, à ça, à 31 hommes et 3 femmes?
Non, le clivage, il est politique. Depuis 2-3 décennies, la question de l'avortement est devenue polarisante du point de vue de la vie politique. On observe d'ailleurs que le pourcentage de républicains qui sont pro-life ne cesse d'augmenter, comme le pourcentage de démocrates qui sont pro-choice ne cesse d'augmenter.
Donc, parce que c'est un marqueur désormais politique. On ne peut pas entrer en élection sans dire si on est pro-choice ou pro-life.
Absolument,
désormais.
Ce qui explique que Trump, durant la campagne de 2016, ait changé un petit peu son fusil d'épaule, puisque dans les années 90, il avait déclaré être pro-choice et qu'il a déclaré de façon très explicite durant la campagne qu'il souhaitait nommer des juges pro-life à la Cour suprême de façon à rallier l'électorat pro-life.
On va y venir dans un instant. Mathieu, on va y venir maintenant. Bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne.
Je voulais justement que vous nous racontiez, parce que c'est ça qui est intéressant politiquement, électoralement, chez les Républicains, chez vous en ce moment. Et Trump en est finalement l'exemple. On doit avoir et emmener, quand on est républicain, les pro-life avec soi. Du coup, Trump a changé d'avis. Son voyage autour de ces questions-là a été assez tumultueux au fond.
Ah oui, ça a même été ce que disait à l'instant votre invité, un véritable revirement, parce que quand il n'était encore qu'un promoteur immobilier new-yorkais, il déclarait qu'il était ouvertement pro-choice, et puis au fur et à mesure qu'il est entré en politique, on l'a vu pendant la campagne des primaires, puis pendant la campagne de la présidentielle de 2016, il a complètement changé son fusil d'épaule, et il est devenu pro-life, comme on dit ici aux États-Unis, et puis depuis qu'il est à la Maison-Blanche, eh ben, il a donné énormément de gages aux anti-avortements. Alors, on va pas les lister tous ici, mais il a nommé Mike Pence à la vice-présidence, qui était ouvertement opposé à l'avortement. Il a nommé 2 juges conservateurs à la Cour suprême, Gorsuch et Kavanaugh. Il a réduit les fonds du planning familial et de plusieurs autres programmes qui permettaient l'accès à des programmes d'interruption de volontaire de grossesse. Et puis, il s'est adressé aux manifestants anti-avortement lors des marches de la vie organisées à Washington. C'était la première fois qu'un président américain s'adressait ainsi directement à eux par écran géant, donc énormément de gages donnés par Trump aux anti-avortements, et c'est pour ça évidemment qu'il y a aujourd'hui cette inquiétude, parce qu'on voit cette offensive concertée dans plusieurs États américains, on voit que la Cour suprême est aujourd'hui dominée par des juges conservateurs, et on voit un président américain qui, encore ces derniers jours, accusait les militants pro-avortement de vouloir, je crois, assassiner des bébés dans les utérus des femmes américaines, donc un discours extrêmement radical de la part du président.
Merci beaucoup Grégory Philips. Camille Froide-Vaumétry, il y a une chose qui m'intéresse dans ce que vient de dire Greg, notamment il y a des attaques concertées. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le vivre effectivement et le voir, un État après l'autre, rapidement dans le temps aussi, pour mettre une pression supplémentaire? Est-ce que c'est vraiment fait pour?
Il y a une vraie stratégie des pro-life qui sont extrêmement bien organisées au niveau du pays. D'ailleurs, une des explications de leurs succès électoraux, c'est le fait que le mouvement pro-choice, lui, est beaucoup moins bien organisé, beaucoup moins présent dans les divers comtés américains.
Ça veut dire qu'il a laissé filer, ou est-ce que, au fur et à mesure, par exemple, parce que le planning familial a cessé d'être financé dans beaucoup d'États, c'est devenu plus difficile?
Non, c'est bel et bien qu'il a, en fait, disons, eu une confiance un petit peu exagérée dans dans la solidité du socle de l'arrêt de 1973. Et ce à quoi on a assisté, effectivement, c'est une forme de course, une forme même de concurrence entre les États, c'est à celui qui sera le premier abortion free state. Et donc, il y a effectivement une offensive concertée. On remarque que depuis le début de l'année 2019, plus de 300 lois ont été votées, ce qui s'ajoute aux quelques 500 qui avaient été votées jusque-là. Aujourd'hui, au niveau national, près de 40% des cliniques qui pratiquent l'avortement ont dû fermer.
Est-ce qu'on le lit uniquement comme une manière pour Trump d'acheter les évangélistes et donc de les acheter pour les prochaines élections, les républicains y compris, ou est-ce qu'on est quand même entré dans une période aux États-Unis, dans une ère, on va dire, où la religion est en train de prendre une place de plus en plus importante en tout cas qu'elle l'a été, parce que effectivement l'Église et l'État sont séparés, mais la religion, la politique, jamais vraiment. Donc est-ce qu'on est rentré dans une ère où la religion a repris une place fondamentale?
Cette question de l'avortement, elle a été assez curieusement dissociée du facteur religieux. Et les militants pro-life eux-mêmes ont un peu dérivé, c'est une stratégie tout à fait consciente, vers l'argument du droit, et notamment le fameux droit à la vie. Alors, il y a une dimension religieuse, l'électorat évangélique est évidemment très majoritairement pro-life, et de fait, Trump le vise. Mais ce dont il s'agit là, je crois, c'est presque encore plus grave, puisque quand on touche au droit à l'avortement, on ne touche pas seulement au droit des femmes à disposer de leur corps, on touche aussi à un des socles de ce que doit être une démocratie, c'est-à-dire que quand les femmes peuvent maîtriser leur nature procréatrice, elles sont en position de s'affirmer comme des sujets de droit rigoureusement égaux aux hommes. Quand on leur dénie ce droit, on touche vraiment à ce nœud de la vie démocratique contemporaine, et c'est la menace vraiment d'une régression démocratique. C'est-à-dire qu'il faut le débat va bien au-delà de cette simple question de la restriction du droit à l'avortement. C'est véritablement l'orientation politique, je dirais même idéologique, de ce pays qui est en jeu.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'un des juges de la Cour suprême, le juge Breyer, a mis en garde il y a quelques jours, peut-être que vous l'avez vu, sur attention à ne pas défaire tout ce qui a été fait, parce qu'on quand on commence effectivement sur l'avortement, on peut aller à d'autres choses aussi. Est-ce qu'il reste quand même un socle en pourcentage de gens favorables à l'avortement aux États-Unis? Encore une fois, c'est compliqué les sondages aux États-Unis parce que le fédéral ne veut rien dire par rapport à chacun des États. Mais le socle, est-ce qu'il bouge ou pas?
Alors, on a quelques indicateurs. Si on s'en tient aux chiffres, aux statistiques, il y a davantage de pro-choice, quasiment 60% de pro-choice contre 40% de pro-life aux États-Unis. Évidemment, les choses ne sont pas aussi caricaturales. Ce qui est important aussi dans cette histoire, c'est que les atteintes au droit à l'avortement, elles ne visent pas n'importe quelle femme. Ce sont les femmes les plus pauvres, les afro-américaines notamment, qui sont dans le collimateur.
En dessous du seuil de pauvreté quand on avorte le plus souvent aux États-Unis.
Absolument. Et on sait que 55 millions d'Américaines bénéficient de l'accès à la contraception grâce à la réforme de santé d'Obama. Et si celle-ci est démantelée, comme ça malheureusement elle est, l'air d'être le cas, eh bien, elles vont ne plus pouvoir accéder à la contraception et donc le problème prend des proportions absolument énormes.
Alors, Camille Froidevaux-Maîtry, vous l'avez évoqué, la stratégie, on l'a bien compris, c'est même si ces lois peuvent être retoquées parce qu'il va y avoir appel, etc., c'est d'arriver jusqu'à la Cour suprême et on ne s'en cache pas quand on est notamment sénatrice d'Alabama. Écoutez.
Cette loi n'a été pensée que pour cela, soulevée par l'arrêt de la Cour suprême Roe versus Wade. Pour moi, le texte de loi que j'ai porté ces quatre dernières années ne va pas forcément durer très longtemps. Mais le message est clair, il faut que la Cour suprême à Washington revisite Roe versus Wade. Quand vous regardez ce qui se passe dans les autres États, il est grand temps. Que ce soit dans des États conservateurs qui adoptent des lois pro-vie ou dans des États moins conservateurs qui adoptent des législations qui vont dans l'autre sens, tout le monde pense qu'il faut que ça change.
Et c'est ça qui est, j'allais dire, formidable. C'est ça qui est incroyable et qui est étonnant. Elle le dit, ça va pas passer, je le sais. Il y aura probablement, parce que c'est vrai, peut-être une inconstitutionnalité qui sera mise en avant, mais c'est pas grave, on y retourne à chaque fois, l'un après l'autre. C'est ça la stratégie, en fait.
Oui, parce que l'espoir, c'est que au bout de cette stratégie de quasi-harcèlement de la Cour suprême, celle-ci bascule. En février dernier, on n'en a pas été très loin, mais le président de cette Cour, John Roberts, a finalement voté du côté des juges progressistes pour geler une loi de Louisiane qui était elle aussi une loi restrictive sur l'avortement. Donc c'est plutôt rassurant, mais on peut imaginer qu'à force de la solliciter, la Cour suprême puisse basculer, puisqu'on le sait désormais, depuis la nomination de Kavanaugh, elle est à dominante conservatrice.
Et c'est intéressant parce que du coup, ce fameux juge Roberts dont vous parliez est en train de jouer les pivots au milieu que jouait le juge Kennedy qui était le conservateur avant, celui qui a été remplacé par Kavanaugh, parce qu'il y a quand même visiblement une certaine conscience quand même de la Cour suprême qu'on est dans un débat qui est purement idéologique. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui aux États-Unis, c'est cette question que se posent les juges, j'imagine, à revenir sur le droit à l'avortement, au fond?
Écoutez, on peut le craindre. Ce que l'on sait en revanche, c'est que si Roe versus Wade était renversé, le droit à l'avortement risquerait d'être banni dans 22 des 50 États américains. C'est comme ça qu'on estime à peu près la proportion, donc une petite moitié des États américains qui sont vraiment opposé à l'avortement. Voilà, on n'est pas loin de la majorité, donc on n'est pas loin de penser qu'effectivement les Américains sont prêts à aller aussi loin.
Vous l'avez évoqué un peu, je vais vous lâcher là-dessus, il y a eu cette grande polémique sur la grève du sexe qui a été lancée par Alyssa Milano pour répondre à cette restriction sur l'avortement. Et au fond, ça répond assez à ce que vous disiez sur le fait qu'il y a on semble assez démunis au fond aux États-Unis pour répondre à ces attaques-là, pour en être à des... Alors, on peut discuter sur la bonne idée ou pas de cette grève du sexe, mais peu importe. Est-ce que l'idée est réellement efficace pour lutter contre une attaque de cette ampleur contre l'avortement? Est-ce que ça montre pas qu'on est très démuni finalement quand on est aujourd'hui un démocrate américain sur ces questions?
Oui, sans doute, parce que d'ailleurs, enfin, l'idée qui a véritablement cru que les femmes feraient la grève du sexe pour s'opposer à cette à ces lois? Je crois que, comme l'a dit d'ailleurs elle-même Alyssa Milano en se justifiant par la suite, c'était une décision, une proposition très symbolique. Elle a eu l'avantage quand même de braquer les projecteurs sur la loi, et elle a peut-être aussi l'avantage de braquer les projecteurs sur les hommes, parce que de fait, les femmes sont bien seules dans ce combat contre contre les restrictions à l'avortement, et il va bien falloir qu'elles commencent à s'organiser, à se structurer davantage, notamment dans la perspective de la prochaine élection, parce que s'il y a quand même une façon efficace de s'opposer à ce type de législation, c'est bien de se présenter aux élections et d'être élu. Et sur ce terrain-là, les femmes américaines sont désormais mobilisées dans des proportions qu'on n'a jamais observées jusque-là, et de ce point de vue-là, il y a un relatif espoir.
C'était déjà le cas, effectivement, aux précédentes élections à mi-mandat, ce sera
absolument
probablement le cas dès 2020. Merci beaucoup, Camille Froide-Vaumetry. Merci beaucoup de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Ensuite, ça se passe en Libye avec Omar Ouaman. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Tripoli pendant que les troupes d'Haftar continuent à pousser? On le verra ensemble. On verra ce qui se passe notamment pour les nombreux migrants qui sont coincés à l'intérieur. Sous les radars et Amélie Perrier, avec les biscuits Balzen sous un scandale en Allemagne et du riz planté au Japon pour l'empereur. Le cinéma en VO, c'est à Cannes avec Eva Bétan, avec un film brésilien ce soir. Grosse résonance donc avec l'actualité évidemment. Et puis, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et la question, ce sera de se demander oui, il n'y a pas d'extrême droite dans tous les pays d'Europe, ça existe.
Mais absolument, plusieurs pays européens ne comptent aucun élu d'extrême droite. Pourquoi? Comment? Vous saurez tout dans 20 minutes.
Allez, ne bougez pas, on a tout en main. Le tour de la planète continue, il passe par le Brésil. Tiens, encore lui, ça tombe bien. Saulo Duarte, qui est de Belém. Flor do Sono, c'est le titre. Sono, c'est sur France Inter. Allez en souplesse, sous les radars, s'il vous plaît.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Amélie Perrier, bien sûr. Amélie, des biscuits qui coupent l'appétit, c'est en Allemagne.
Des biscuits de la marque Balzen. Vous les connaissez tous, c'est par exemple ça.
Bonjour, on t'a apporté des curlis.
Salut ma belle. Aujourd'hui, c'est pas des fleurs, c'est des curlis. C'est si bon.
Et si croustillant.
Curlis de Balzen.
J'adore ce petit goût de cacahuète.
Ou encore ça pour les plus jeunes.
C'est Monster Munch.
Monster Munch, des petits monstres salés au bon goût de pommes de terre.
Monster Munch de Balzen, mieux vaut tous les manger.
Ou en version sucrée, parce que je crois que vous préférez, Fabienne.
Je vous en prie.
Fermez les yeux, imaginez une vraie tablette de chocolat entre deux délicieux biscuits. Pick-up de Balzen, une irrésistible envie de plus de chocolat? Gourmand.
Bon voilà, arrêtez de saliver maintenant, non, Fabienne, ben non, ça a trop duré.
C'est beaucoup plus difficile que ça en biscuit, je peux vous dire.
Parce que si je vous parle de ce fabricant de biscuits allemand, c'est à cause des déclarations de sa jeune héritière de très mauvais goût. Verena Balzen a déclaré au Bild à propos des travailleurs forcés dans l'entreprise de gâteaux à l'époque nazie. Tout cela s'est passé avant mon époque et nous avons payé les travailleurs forcés comme les Allemands. Nous les avons bien traités. Balzen n'a rien à se reprocher. Fermez les guillemets. Alors Balzen a employé 200 travailleurs forcés pendant la Seconde Guerre mondiale pour produire les rations alimentaires pour l'armée allemande, sur le front surtout. Et depuis lundi, ça ne passe pas outre-Rhin. En fait, le Troisième Reich reste un sujet sensible et même le redevient avec la montée en puissance de l'extrême droite qui, elle, ne veut plus participer au travail de repentance, jusqu'à présent consensuel, partagé par toute la classe politique. Une pétition a été lancée pour boycotter les produits de la marque. Ce soir, quand même, Verena Balzen est revenue sur ses propos. Elle avoue des déclarations irréfléchies, une erreur, et affirme n'avoir pas voulu, je la cite, banaliser le national-socialisme et ses conséquences.
Voilà, rendez-nous les figolus. Après tous ces biscuits, pourquoi pas un peu de soda pour s'hydrater?
Certainement pas, Fabienne, trop sucré ou édulcoré avec des substances dont on ne sait pas vraiment si elles nous font seulement du bien. Eh bien, la taxe soda a été créée pour dissuader les consommateurs comme vous d'en consommer trop, d'en boire trop en France notamment. Parce que voilà ce que l'on disait dans une pub des années 60 pour Coca.
You know, this was me 5 years ago. And it's still me.
C'est un peu comme vous, Fabienne. La comédienne Connie Clausen vantait l'énergie que donnait son soda, sans prendre un gramme, pas plus de calories dans sa bouteille, dit-elle, que dans la moitié d'une grappe de raisin. Alors depuis, on a un peu refait les comptes. Une canette de coca, c'est 7 morceaux de sucre, du diabète, de l'obésité, se propageant comme une épidémie, surtout chez les jeunes. Alors pour revenir à l'eau, les gouvernements testent la taxe soda et ça fonctionne. Exemple à Philadelphie aux États-Unis, on vient d'apprendre que les ventes de ces boissons ont chuté de 38% depuis l'entrée en vigueur d'une taxe spéciale en janvier 2017. Les prix des bouteilles et des canettes ont augmenté de 25 à 53 cents de dollars en moyenne. En 2 ans et demi, les habitants de Philly ont drastiquement réduit leur consommation. Le souci, c'est que pour l'instant, les plus accros au soda sont allés faire leurs courses dans les magasins frontaliers où les ventes, là, augmentent. Mais même en prenant en compte ces achats, on arrive à une baisse de la consommation de 38%. Il faudra maintenant mesurer le recul de l'obésité, des caries et des cas de diabète. En tout, 7 villes américaines taxent les sodas sucrés et édulcorés. Le Mexique également s'y est mis et la France depuis 2013. Mais chez nous, les résultats sont mitigés. La taxe, peut-être, n'est pas assez dissuasive.
Allez, pour terminer avec ce tour du monde comestible, revenons à un aliment de base, hein, excellent.
Oui, le riz, et pas n'importe lequel, celui en l'honneur du nouvel empereur.
Je prie pour votre santé et votre bonheur. Je souhaite sincèrement que notre pays, main dans la main avec les pays étrangers, recherche la paix mondiale et davantage de développement.
Et la santé du nouvel empereur Naruhito, eh bien, ça passe par le riz. Autre cérémonie, cette semaine, celle pour déterminer où sera cultivé le riz pour le palais impérial. Et pour ce faire, des experts ont examiné, devinez quoi, des carapaces de tortue. On chauffe les carapaces, des craquelures apparaissent et cela indique les sites de culture. Wow. Cette fois, oui, ce sera dans l'ancienne capitale Kyoto et puis également au nord de Tokyo, dans la préfecture de Toshigi. Un rituel très rare avec des carapaces de tortue verte, des espèces marines menacées, mais le palais assure qu'elles sont prélevées dans le cadre d'un programme de conservation, que les tortues n'ont pas été tuées dans ce but. Elles viennent des îles Ogasawara, dans le Pacifique, où là, elles sont encore consommées par les habitants.
Eh ben dites-moi, la carte du riz sur le dos de la tortue.
Exactement.
Amélie Perrier, sous les radars. Merci Amélie.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est en Libye donc que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, qu'il est difficile à lire ce pays en ce moment. Vous en revenez. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Fabienne.
Omar, ce qu'on sait, c'est que depuis le 4 avril, les combats se déroulent aux portes de la ville, aux portes de Tripoli. Plus de 400 morts déjà, 60 000 déplacés. Des affrontements qui opposent les forces du maréchal Haftar qui viennent de l'est de la Libye et les milices qui soutiennent le gouvernement de Fayez al-Sarraz, soutenu par la communauté internationale. Une guerre qui s'annonce longue. Au milieu des combats, il y a des dizaines de milliers de personnes. Il y a des migrants qui sont pris au piège.
Oui, des réfugiés venus principalement du
Sahel voisin comme Moussa. Moussa, 32 ans, originaire du Niger. Moussa a renoncé à son rêve d'Europe en raison des dangers de la traversée. Il souhaite désormais rentrer chez lui par la route comme à l'aller, mais dans le sens inverse, à travers donc le Grand Sud libyen, un itinéraire extrêmement dangereux. Ses amis l'ont pris avant lui. Ils ont été enlevés, kidnappés près de la ville de Bani Walid par un groupe armé. Moussa raconte.
J'ai quatre personnes là-bas chez Bani Walid. Ils sont maintenant en otage.
Qui sont ces quatre personnes?
C'est mes frères. On vient des mêmes villages. Ils ont appelé nous. Ils ont dit qu'il y a des gens qui nous arrêtent de la route.
Okay.
Maintenant, ils ont dit qu'ils veulent l'argent.
Et ils veulent combien d'argent, les preneurs d'otages?
Une personne, il veut 12 000 dinars. Mmh. Une personne, ils ont quatre personnes.
12 000 par personne, 48 000, 9 000 dollars environ.
9 000 dollars, Inch'Allah. On cherche l'argent, on appelle là-bas, chez nous,
au Niger.
Ils ont nous envoyé l'argent.
Pour les faire libérer.
Pour les faire libérer, Inch'Allah.
Donc même quand vous voulez rentrer chez vous, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire enlever sur la route du retour.
Maintenant, moi, je vais rentrer
au Niger,
en route, même route. Mais maintenant, j'ai changé mon choix parce qu'il y a des problèmes de la route.
Vous avez changé d'avis?
Oui, j'ai changé.
Moussa, donc, hein, Omar, on l'a bien compris, qui a décidé de patienter avant de reprendre le chemin retour. La guerre à Tripoli, évidemment, n'a pas cessé. Ces derniers jours, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie ont eu lieu notamment à Ain Zahra, où des réfugiés sont pris entre deux feux, tout près de la ligne de front.
Oui, ce quartier de Ain Zahra, qui se trouve dans le sud de la capitale, où se trouve l'oncle de Moussa et une vingtaine d'autres migrants. Ils vivent cloîtrés dans une maison à moins de 500 mètres de la ligne de front. Moussa a pu les joindre.
Ouais, ils sont comme les prisonniers parce qu'il n'y a pas de route.
Qui les nourrit? Qui leur apporte à manger?
C'est un Libyen.
Leur patron qui les faisait travailler?
Leur patron, oui.
Vous les avez au téléphone?
Oui. On les appelle.
Alors?
Oui. Mon oncle, il parle français, mais
il est
là-bas. Il est là-bas.
Vous voulez l'appeler?
Tu veux?
Oui.
Ok. Ça sonne. Ah, salam alaikum.
Bonsoir.
Bonsoir, mon ami.
Qu'est-ce qui se passe là-bas à Zahra?
Ici, il y a beaucoup de problèmes.
Il y a beaucoup de problèmes? Vous ne pouvez pas partir? Quitter la maison?
Là, on est là. Voilà, il y a la guerre.
Il y a la guerre autour de vous?
Près de nous, voilà, il y a le problème. Là.
Dans le quartier, il n'y a plus personne? Tout le monde est parti?
Il y a des gens. Il y a beaucoup de gens. Là.
Il y a des Libyens?
Là, pas des Libyens.
Ce sont des Africains qui...
Il n'y a que des Africains?
Il y a plus de Libyens, mais il n'y a pas de Libyens.
Il n'y a pas de Libyens, il n'y a que des Africains.
Non, maintenant on est là. Ah, on est quelques dizaines comme cela.
Mais il n'y a personne pour venir vous chercher, pour vous sortir de là.
Non, il n'y a personne.
Il n'y a personne. Ok, bon courage, monsieur.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Vous avez des amis qui sont coincés à Zahra, au milieu des combats. Vous en avez d'autres qui sont enlevés
les
à Bani Walid.
Oui.
Vous êtes en sécurité nulle part.
Nulle part.
Voilà, donc des réfugiés vulnérables que l'insécurité à Tripoli met en danger. Omar, une guerre très impopulaire dans la capitale où la population manifeste tous les vendredis après-midi, c'est ce qu'on entend.
Oui, sur la place des Martyrs, en plein cœur de Tripoli, où les manifestants viennent crier leur colère, comme cette jeune maman qui est venue dénoncer les ambiguïtés de la France. Paris, qui considère que le maréchal Haftar fait partie de la solution.
France, enlève tes mains. Ici, c'est la Libye, pas la France. C'est notre pays.
La France accusée de jouer double jeu, officiellement de soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj qui siège à Tripoli, et en sous-main de miser sur le maréchal Haftar au nom de la lutte contre le terrorisme. Zahra, venue en famille.
Nous, peuple libyen, avons été très choqués d'apprendre que la France soutient ce terroriste d'Haftar. Nous savons qu'elle lui apporte une aide militaire. La position de la France est totalement hypocrite.
Un soutien tacite de la France selon laquelle le maréchal Haftar est incontournable dans cette crise libyenne. Une position synonyme de trahison pour Safia, une grand-mère qui se souvient que c'est grâce à l'intervention de la France en 2011 que la dictature du colonel Kadhafi a pris fin.
Au début, c'était légitime que la France agisse, car elle cherchait à réconcilier les Libyens. Mais en soutenant Haftar, elle s'est retournée contre nous. Résultat, les Libyens s'entretuent. Pourquoi viennent-ils détruire nos maisons, tuer nos enfants? Ce sont des crimes de guerre.
Alors on l'entend, Omar, des manifestants très anti-français, mais pour recueillir des témoignages plus nuancés, il faut s'éloigner de cette place des martyrs.
Oui, car en réalité, la majorité des habitants de Tripoli renvoient dos à dos les milices qui contrôlent donc cette capitale et le maréchal Haftar, soupçonné de vouloir passer en force pour installer une nouvelle dictature. Écoutez le témoignage de cet ancien guide touristique, désormais au chômage.
Nous, les habitants de Tripoli, nous avons beaucoup souffert de ces milices, car elles ne sont pas organisées. Oui, c'est vrai qu'au début, elles ont participé avec l'OTAN à libérer la Libye et à en finir avec le système Kadhafi, mais 8 ans après, qu'avons-nous construit ? Rien. Haftar, lorsqu'il débarque avec ses armes lourdes, c'est pour détruire Tripoli. C'est l'homme qui veut devenir le nouveau Kadhafi. Et si les milices gagnent cette guerre, elles en sortiront plus fortes et continueront à voler notre argent. Dans les deux cas, on est perdant.
Un désarroi qui est palpable chez les habitants de Tripoli, Omar. Où on en est sur le plan militaire d'ailleurs, cette bataille alors ?
Eh bien c'est le statu quo total après une percée éclair des forces du maréchal Haftar le 4 avril. Depuis, les lignes de front sont figées. Elles se situent dans les quartiers sud aux portes de la capitale où des raids aériens ont lieu régulièrement et surtout la nuit.
Merci beaucoup Omar Waman pour Un jour dans le monde, de retour de Libye. Merci mille fois. Allez, un petit bout de Yael Naïm sur France Inter. Sur France Inter. Et si on allait à Cannes ?
3, 2, 1, let's go. France Inter. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is... Un jour dans le monde.
À Cannes, rejoindre évidemment Eva Bétan qui passe la quinzaine évidemment sur la croisette. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Alors ça y est, les choses sérieuses ont commencé. Eva, oui. On est parti pour les films, c'est super. Le film du jour pour nous emmène au Brésil. Il s'appelle Bacurao. Il a été co-réalisé par Giuliano Dornel et Kleber Mendoza Filho qui avait déjà fait Aquarius, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait. Très beau film.
Exactement. Un sujet très intrigant cette fois, Eva. Un village qui du jour au lendemain ne figure plus sur les cartes. Un bout de bande-annonce, on se retrouve juste après.
A gente está sendo atacado. Você quer viver ou morrer?
Très intriguant aussi la bande-annonce Eva. Le film, il est présenté ce soir à 22h et l'écho mondial qui lui sera donné est donc au cinéma brésilien et particulièrement important évidemment dans le contexte politique du Brésil aujourd'hui.
Tout à fait. En 2016, Kléber Mendonça Fillo, présenté donc à Aquarius, et quand il était arrivé en haut des marches, avec toute son équipe, il avait déplié une pancarte sur laquelle il y avait écrit « Un coup d'État est en cours au Brésil ». Il voulait dire contre Dilma Rousseff. Il avait fait cela pour que les médias internationaux s'intéressent au Brésil et ça avait eu un écho mondial. C'est un réalisateur brillant, son film est attendu, est important, mais en plus, il y a le contexte actuel. Ce film, il a mis 8 ans avec son co-réalisateur à le faire tout en faisant d'autres choses, faisant d'autres films. Et pendant ce temps-là, son pays évoluait. Kléber Mendonça Fillo.
Parfois, je me dis qu'il y a 15 ou 20 ans, on n'était pas obligé de rappeler certaines évidences, comme on est amené à le faire aujourd'hui. En termes de droits de l'homme, en termes d'égalité, en termes de société plus juste, l'idée que l'extrême droite, le fascisme puisse revenir, beaucoup de ces choses-là font à présent partie de nos vies. Ça passe par des détails, le comportement de vos voisins ou celui de vos collègues de travail.
Ce qu'on sait, évidemment, c'est que l'une des premières cibles de Jair Bolsonaro, ça a été la culture.
Oui, et on peut imaginer qu'il ne doit pas être très content que ce film soit en compétition à Cannes, mais il y a aussi 2 autres films brésiliens dans des sélections parallèles. Dès le départ, il les a traités de marxistes, d'afro-gauchistes, il a affiché son mépris pour eux, et il a pris des mesures. Une des mesures étant de supprimer le ministère de la Culture et d'en faire un département d'un ministère. Donc le climat n'est pas faste du tout pour les artistes, c'est un euphémisme, j'ai envie de dire, Kléber Mendonça Fillo à nouveau.
I can tell you, as a Brazilian citizen, at this time last year, I could never believe.
Je peux vous dire, en tant que citoyen brésilien, que l'an dernier, à la même période, je ne croyais pas une seconde que Bolsonaro deviendrait président du Brésil. Pour moi, c'était une plaisanterie.
15-16 years of public policies for film funding in Brazil. Not only film.
En ce moment, il y a une tentative pour démanteler 15 ou 16 ans de politique publique de soutien au cinéma au Brésil. Cela ne concerne pas que le cinéma. La culture en général est vue comme une sorte d'ennemi de l'État. Des amis qui ont des sociétés de production licencient des gens. Des films qui étaient en projet sont interrompus ou repoussés à plus tard. Bakuro n'a eu aucun argent pour sa sortie en salle. Nous devons nous battre avec un monde nouveau dans lequel le financement disparaît. Mais il n'y a pas que cela. Il y a soudainement une atmosphère d'agressivité envers les artistes.
Is disappearing, but there is a certain atmosphere of aggression and aggression towards artists.
On comprend donc l'importance, hein, Eva, de la présentation de ce film ce soir à Cannes et l'impact que ça aura. Ça se passe à 22h. Merci
22
beaucoup.
Heures, oui.
Eva Béton,
merci,
on se retrouve mercredi prochain, bien sûr.
Avec plaisir.
Allez, bonne quinzaine.
Le 18-20. Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est la dernière ligne pour la campagne des élections européennes. Débat ce soir entre les Spitzerkandidaten, c'est-à-dire les candidats des principaux partis à la Commission, parce que ça aussi c'est important, et grand meeting des extrêmes droites. Ça se passe dimanche, c'est à Milan, à l'initiative de Matteo Salvini, l'Italien. Dans 10 jours, tout le monde s'attend à une poussée des partis extrémistes et nationalistes. Mais ce soir, vous prenez le contre-pied de cette idée en soulignant que l'extrême droite ne progresse pas partout en Europe. Et c'est votre Monde à l'envers.
En fait, ce n'est pas une poussée homogène, contrairement à cette idée reçue d'une vague qui progressivement serait en train de submerger tout le continent. Dans plusieurs pays de l'Union, l'extrême droite reste faible. On peut citer par exemple la Lituanie, la Roumanie, la Croatie, la Slovénie, et plus intéressant encore, le cas de 4 pays où l'extrême droite est carrément aux abonnés absents, non représentés dans les parlements nationaux, aucun député. Le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal et Malte. Alors je vous l'accorde, le cas britannique, il est un peu
j'allais
à part,
hein,
parce que en plus le nationalisme s'exprime en grande partie à travers le mouvement du Brexit, mais ça vaut le coup de s'attarder en revanche sur les 3 autres. Pourquoi l'extrême droite ne décolle pas en Irlande, au Portugal, à Malte, et en miroir, ça peut aider à comprendre pourquoi elle progresse ailleurs. Ces 3 pays, ils présentent plusieurs points communs. D'abord, le sentiment d'appartenance à l'Europe y est fort. Le taux de confiance dans l'Union, il dépasse largement les 60%. À titre de comparaison, en France, c'est moins de 40, chiffres du Parlement européen. Donc ça confirme le lien entre euroscepticisme et extrême droite. Ensuite, ces trois pays, à des degrés divers, ont rebondi, si vous voulez, se sont relancés après des crises économiques sérieuses, et en grande partie avec les aides de l'Union européenne. En plus, au Portugal, alors ce rebond s'incarne dans une politique de gauche, ce qui est rare en Europe, augmentation du salaire minimum, mesures sociales, arrêt des privatisations. Du coup, les jeunes générations portugaises sont particulièrement pro-européennes. Et quand le sentiment de déclassement social s'estompe, l'extrême droite, on le sait, perd un levier majeur.
Et alors, quand la question de l'immigration, qui est centrale dans le discours des extrêmes droites, est abordée, elle les comment dans ce pays ?
Ben, c'est pas un sujet majeur dans ces trois pays. Et là encore, on voit bien qu'il y a un lien direct. En Irlande, aucun parti ne tient un discours anti-immigré, peut-être parce que l'Irlande est depuis longtemps une terre de migrants, d'exil. L'immigration y est perçue comme un facteur plutôt positif. C'est un peu la même chose au Portugal, qui est aussi davantage une terre d'émigration. Les Portugais ont longtemps quitté leur pays pour trouver du travail ailleurs. Et puis dans l'autre sens, bon nombre des immigrants à gagner le Portugal viennent d'Afrique lusophone. Autrement dit, ils parlent portugais. Évidemment, ça facilite l'intégration. Enfin, il y a un dernier paramètre, c'est l'image des élites. Dans ces pays, le sentiment que les dirigeants sont coupés de la réalité, voire carrément corrompus, est un peu plus faible qu'ailleurs. Et là encore, si on regarde le sujet dans un miroir inversé, là où les élites paraissent coupées du monde réel, on sait très bien que le vote extrémiste est nourri presque mécaniquement. Donc cette carte des pays sans extrême droite, elle est riche d'enseignements.
Enfin, ça reste quand même des cas à part, parce que la règle générale, c'est quand même plutôt une poussée des votes nationalistes et des votes extrémistes.
Oui, c'est vrai. Les différents partis d'extrême droite devraient voir leur nombre de députés fortement augmenté au Parlement européen dans 10 jours. Il représente aujourd'hui un peu moins de 20% des élus. Ils dépasseront sans doute les 25% avec peut-être plus de 180 députés. Mais là encore, une fois qu'on a dit ça, le paysage n'est pas homogène non plus. D'abord, la poussée n'est pas nouvelle. Prenons par exemple la France, tout simplement. Il y a 5 ans, aux dernières européennes, le FN, rebaptisé depuis Rassemblement National, était déjà sorti en tête avec 25% des voix. Ensuite, les extrêmes droites européennes restent divisées en au moins 3, voire 4 groupes au Parlement. Elles sont loin d'être d'accord sur tout, malgré les efforts aujourd'hui de l'Italien Salvini pour les fédérer. Par exemple, les droites radicales au pouvoir en Hongrie et en Pologne ne veulent pas jusqu'à présent siéger dans un même groupe que les extrêmes droites. Et puis, dernier point, le discours de ces partis est en mutation, presque en douce, ni vu ni connu. Beaucoup ont fait volte-face sur l'euro, acceptent désormais la monnaie européenne, plus aucun ne veut sortir de l'Union, et beaucoup donnent la priorité aux frontières européennes, pas aux frontières nationales, pour lutter contre l'immigration illégale. Donc c'est révélateur. En résumé, les extrêmes droites évoluent sur la question européenne. D'ailleurs, Salvini en est vraiment l'incarnation. Il adapte son discours au fil des ans, dans le sens du vent, pour mieux séduire les électeurs, le pragmatisme plutôt que l'idéologie.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On reste ensemble pour le téléphone sonne et le journal, bien sûr. Ne bougez pas, on maîtrise, et à tout de suite.